Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Benjamin Muller et Fred Hermel avec vous, bien sûr, au 32-16 pour réagir à notre prochain débat, la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que cette mesure, elle est scandaleuse ou justifiée? On attend, bien sûr, vos appels au 32-16. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC. Le zapping, il y aura également la minute conso de Paul Lassen à 13h45. Il nous parlera des astuces anti-gaspi, des astuces pour faire des économies. Et puis notre question de 14h, vous l'attendez tous évidemment, les écrans sont-ils un danger pour notre vie sexuelle? Il faut savoir qu'un homme sur trois quand même a des troubles de l'érection à cause des écrans justement. Est-ce qu'il faut bannir les écrans de nos chambres à coucher? On attend là encore vos témoignages. Dites-nous comment ça se passe chez vous.
RMC Estelle Midi.
Et on va tout de suite intéresser à la réforme du jour. C'est celle de l'assurance chômage. À partir du 1er février, la durée d'indemnisation des nouveaux demandeurs d'emploi sera réduite de 25% concrètement. Rémi, ça va marcher comment et est-ce que tout le monde est concerné?
Alors, exemple, un chômeur qui a aujourd'hui le droit à une durée d'indemnité de 24 mois n'en aura plus que 18. Voilà concrètement ce que ça veut dire, un dispositif déclenché. Parce que le taux actuel de chômage en France est assez faible. Je dis bien assez faible, on est autour de 7%. Nous sommes dans ce que le gouvernement qualifie désormais de période verte, qui est donc synonyme de baisse de droits. Au cas où le taux de chômage flamberait à nouveau dans notre pays, au-delà de 9% de la population active, eh bien on repasserait en période rouge, avec un retour aux règles actuellement en vigueur. Ce n'est pas tout, si la France atteint un jour le plein emploi, c'est-à-dire aux alentours de 5% de taux de chômage dans la population active, eh bien un nouveau tour de vis sera décidé, la durée d'indemnisation sera réduite de 40%.
À tout de même.
Tu m'as demandé à l'instant si tout le monde était concerné.
Oui. Bah,
presque, mais pas tout le monde.
Ah bon ?
C'est-à-dire que les dockers, ceux qui travaillent dans les ports,
oui,
les intermittents du spectacle, ainsi que les chômeurs qui sont inscrits au chômage dans les dom-toms, sont exempts de ce dispositif.
Bah, les indemnités... ceux qui s'occupent qui sont dans le spectacle, les intermittents du spectacle, c'est parce qu'il faut avoir un certain nombre d'heures et c'est quelquefois très compliqué quand on est intermittent du spectacle, que ça soit technicien ou acteur, de rassembler les heures. Donc ils n'ont pas touché un système qui était déjà précarisé et qui avait déjà été durci il y a quelques années.
Et dans les dom-toms, vous avez une explication?
Parce que le marché de l'emploi n'a rien
à voir avec
les dom-toms,
c'est parce qu'ils sont très syndiqués.
C'est tellement spécifique dans les dom-toms.
Avec un syndicat.
Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le dispositif est jugé totalement inacceptable et illisible pour les demandeurs d'emploi. Voilà ce que dit la CGT. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, lui, est persuadé que cette réforme permettra entre 100 et 150 000 retours à l'emploi supplémentaires en 2023.
Alors cette réforme, est-ce qu'elle est scandaleuse ou nécessaire? Je commence avec vous, Fred Hermel.
Elle n'est pas du tout scandaleuse. D'ailleurs, c'est pas la première fois dans l'histoire du.
Enfin, là, c'est pas un gros coup de rabot. Hein.
Non. Alors, ce qui serait un scandale, c'est de raboter les indemnités. Mais pas la durée, du temps d'indemnité. Il faut voir que l'assurance chômage n'est pas un dû, c'est un droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que, allez, je vais travailler pendant 6 mois, puis après je vais profiter au maximum du système avant de rechercher un travail. Non, c'est une assurance.
Fred,
Je termine. Justement, pour sauver ce système qui est excellent, il faut justement le rendre en adéquation par rapport aux offres d'emploi qu'il y a. C'est-à-dire que ça me paraît tout à fait logique que quand on a un accident de la vie, on cotise pour ça, c'est une assurance. Il y a un accident de la vie, très bien, on a le droit au chômage, c'est tout à fait normal.
Mais t'as des métiers où quand t'es cadre, c'est plus difficile de retrouver que si t'es dans la restauration,
bien sûr,
par exemple.
Bien sûr, mais là, 18 mois, d'indemnité, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire, on ne passe pas à 3 mois derrière. Enfin, c'est 18 mois. C'est beaucoup. C'est un an et demi.
On va tout de suite au Qatar retrouver Valentin Jamin. Le match Argentine-Arabie Saoudite qui est terminé, Valentin.
Et la première sensation de ce mondial, victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. 2-1. Les Argentins avaient marqué par Messi. Et 2 buts en 5 minutes juste après la pause permettent donc aux Saoudiens, eh bien, de l'emporter. 2-1. L'Argentine n'avait plus perdu depuis juillet 2019. 36 matchs sans défaite. C'est une énorme surprise et les Argentins, eh bien, vont jouer très très gros samedi prochain lors de leur match face au Mexique. Les Bleus auront également probablement regardé ce résultat puisqu'en cas de qualification, la France tombera contre une équipe de cette poule. Mais l'Argentine, pour l'instant, est bien loin de ses considérations. 2-1 pour l'Arabie Saoudite face à l'Argentine.
Juste Valentin, oui. C'est un score. Alors le score, il est surprise évidemment, mais concrètement, les Argentins, c'est un hold-up ou c'est pas un hold-up quoi ?
Je vais vous donner une stat. 3 tirs pour l'Arabie Saoudite, 2 tirs cadrés, 2 buts. Donc c'est quand même la preuve que les Saoudiens ont très peu attaqué. L'Argentine a été très bonne en première période, mais trop stérile dans sa possession en seconde mi-temps. Ils ont eu du mal vraiment à frapper, à se montrer dangereux. Donc je ne vais pas dire que c'est mérité, mais les Argentins vont pouvoir s'en prendre à eux-mêmes.
Merci beaucoup Valentin Jamin.
Avec plaisir.
RMC, Estelle Midi.
On reprend sur l'assurance chômage. Voilà. Non, oui, alors je sais, c'est un peu étrange, hein, bien sûr, comme transition. Oui. Donc, Fred, cette mesure, donc, je rappelle quand même la durée d'indemnisation des nouveaux demandeurs d'emploi réduite de 25%, vous la trouvez tout simplement nécessaire.
Je termine simplement parce que, et Rémi l'a très bien expliqué, si de nouveau il y a moins d'emplois disponibles, on va repasser aux 24 mois. Donc, c'est tout à fait logique que le système d'indemnisation soit adapté aux offres d'emploi.
Oui, mais ça, encore une fois, ça dépend si t'es cadre ou si t'es serveur ou si t'es dans le bâtiment. Si t'es cadre aujourd'hui,
c'est 18 mois quand même.
Et ben alors.
C'est beaucoup de temps, 10 mois, c'est un an et demi.
Oui, d'accord. Enfin,
on a un an et demi pour retrouver du travail.
Si t'es viré, je suis désolée, si t'es cadre, t'as 58 ans, t'as cotisé toute ta vie, dit, attends, t'as plus que 18 mois pour retrouver du boulot, je suis pas sûre que si t'es 58 ans et que t'es cadre, t'en retrouves dans les 18 mois. C'est ça le problème.
Mais t'en trouveras pas non plus dans les 24 mois.
Bah, c'est possible que si.
Bah, ouais,
mais en tout cas, tu seras indemnisé plus longtemps.
C'est-à-dire que qu'il y ait un problème,
qu'il y ait
un problème en France pour les gens d'un certain âge à retrouver du travail, ça c'est clair. Et c'est pas.
Mais c'est les gens qui ont le plus cotisé, en fait.
Bah, oui, bien sûr.
Ceux qui vont toucher le moins, bah, c'est quand même un peu embêtant.
Il y a une histoire, Fred, de messages envoyés quand même. Là, on les pointe du doigt en leur disant bon, bande de feignasses. Moi, je suis d'accord. Attends, je suis d'accord avec toute une partie de ton argumentaire quand tu dis il y a des accidents de la vie, etc. Mais pourquoi t'as besoin de dire c'est pas une assurance, tu bosses 6 mois et derrière tu te dis 6 mois,
parce qu'il y a des gens qui le font.
T'en connais, toi.
Très peu.
T'en connais.
Il y a des études qui le montrent, quoi.
Ouais, bah, ça, ouf, ouais, enfin, franchement. Moi, j'ai l'impression qu'on sort quand même souvent cet argument et qu'au final, enfin, tu vois, dans la vie de tous les jours, j'en croise peu, je connais personne qui me dit je connais un gars qui machin, etc. Pour voir.
Moi, je connais des gens, je suis désolé, je connais des gens qui, depuis 2 ans, je dis pas que c'est une majorité, mais qui ont décidé de se poser. Ont essayé de se poser pour réfléchir au sens à donner à leur vie et qui ont arrêté leur métier alors, avec des ruptures conventionnelles.
Mais c'est pas la même démarche.
Non, mais attends, non, mais alors que c'était des démissions et qui ont profité du chômage.
Estelle,
ça existe.
Réfléchir au tournant
pas.
Que tu veux donner à ta vie, c'est pas la même chose que de dire je bosse 6 mois, je glande rien pendant 6 mois.
Ah bah, c'est la même chose.
Oui, enfin, c'est la même
chose. Pour moi, c'est
la même chose. Alors, quand tu veux démissionner et que tu demandes une rupture conventionnelle, comme tu dis, pour chercher un sens à sa vie, tu profites du système parce que tu touches de l'argent pendant 4 mois.
C'est pas profiter du système pour moi.
Oui,
le système te permet ça.
C'est pas un accident. Quand toi, tu décides de changer de métier, de truc, c'est pas un accident, c'est toi qui l'as choisi, il faut l'assumer.
Si tu fais un métier qui te plaît pas, tu te fais licencier, ça fait 20 ans que tu fais ce métier qui ne te plaisait pas, t'étais pas heureux, tu gagnais pas assez, tu estimais que c'était dur, tout ce que tu veux. T'as le droit, peut-être dans la vie, la vie c'est long, de te dire tiens je vais me poser, je vais réfléchir, essayer d'entre
Fred,
j'aimerais vivre dans ce monde manichéen, je te souhaite de jamais douter dans ta vie, et tant mieux pour toi si t'as jamais douté.
Je ne suis que doute,
tu sais, la vie c'est compliqué, il y a des parcours de vie, tu fais des études et puis arrivé à 30 ans t'as plus envie de faire ce pour quoi tu t'es formé, ça existe. Je suis allé lire, je me suis dit tiens je vais essayer de lire les arguments,
c'est pas aux autres à le payer ça.
Eh ben c'est ce qu'on appelle la solidarité. Moi, je suis désolé.
Solidarité pour les accidents. C'est pour ça que ça s'appelle assurance.
Eh ben,
l'assurance, c'est quand quelque chose se passe.
Eh ben, donc on est.
Pas toi, je décide. Voilà.
Mais non, un truc se passe.
Je vois pas en quoi c'est un caprice de quand t'as cotisé pendant 25 ans, te dire merde, je suis pas heureux dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai envie de changer. Pour changer, il faut que je prenne un petit temps de réflexion.
C'est pas fait pour ça, le chômage, c'est pas fait pour ça.
La vie n'est pas aussi simple. Et juste une chose, je me suis demandé quels étaient les arguments des gens pour qui il fallait vraiment réduire encore plus, etc. Je suis allé lire Le Figaro tout à l'heure. Édito de Gaëtan de Capelle.
Pas lu Libé.
Excellent. Et non, j'avais pas les codes pour Libé, alors j'ai les codes du Figaro. Bref, Gaëtan de Capelle, donc dans Le Figaro, etc. Il dit enfin un zeste de responsabilisation dans un monde d'assistanat. Et après, il dit la moindre des choses est de rechercher activement un emploi. Et je trouve ça dingue quand on parle de ce sujet où là encore, je pense qu'il faut prendre en compte les spécificités des uns et des autres. Mmh. C'est direct, on parle d'assistanat. C'est la vie est plus compliquée. Oui, et une dernière chose, à une époque où on parle beaucoup des burn-out, et ça pour le coup, j'en ai plein autour de moi, de jeunes gars qui se sont fait essorer, qui ont 30 ans. Et je vous en parlais la dernière fois dans
l'école. C'est votre milieu qui veut ça.
Oui, ah bah, pas
chez
que.
Les ouvriers à moins de burn-out.
Et ben moi, c'est un commercial chez Peugeot, si vous voulez tout savoir. Pas chez Peugeot. Enfin bref, dans l'automobile, il en pouvait plus, etc. Il a mis des mois sans remettre. Il arrivait plus à sortir de son lit. Qu'est-ce qu'on fait avec un gars comme ça? On estime que c'est un caprice, Fred? Non, on estime pas que c'est un caprice. Lui, il a eu besoin d'une longue période pour se remettre. Et je trouve ça très bien.
C'est une maladie. C'est une maladie, ça
oui, mais lui, c'est pas placé en maladie parce qu'il le sentait pas.
Ah
il avait
bah,
besoin.
Ah bah,
oui,
mais c'est pas une maladie.
Oui, mais
c'est une maladie.
Il y a des gens pour qui reconnaître qu'on est en dépression, c'est compliqué. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut entendre.
Mais
j'aimerais bien être comme vous, tout blanc, tout noir. Non, c'est plus compliqué.
Non, mais pardon, mais on va pas faire. Non, mais excuse-moi. Il y a un moment où t'es reconnu comme là, t'es malade et t'es prise en charge et c'est parfaitement normal, etc. Ou c'est toi qui décides que t'as un burn-out. Mais en fait, tu vas pas demander. Non, mais je suis désolé, c'est pas à toi de décider si t'as un burn-out. Si t'as un burn-out, c'est à un médecin de décider.
Mais bien sûr.
Non, mais sinon, moi aussi, je vais dire, je crois que j'ai vraiment un burn-out et puis je vais arrêter de bosser. Bah non, ça c'est pas possible.
Il y a pas que burn-out, il y a aussi ce que ça remet en cause dans ta tête. C'est là où toi tu parlais de caprice. C'est-à-dire qu'à un moment
Je trouve que pour, d'abord, je pense que c'est pas une bonne chose. J'explique pourquoi. On sent que c'est une mesure qui a été prise par un énarque dans un bureau qui s'est dit on a un taux de chômage à tel pourcentage, on a un taux d'emploi sur lequel il y a des emplois non pourvus, et donc on va réduire un peu la facilité de la durée d'indemniser du chômage, et comme ça va faire passer des gens d'une colonne à l'autre. C'est une vision de chiffres, de statistiques, mais qui prend pas en compte l'humain. Je vais prendre deux exemples. Les régions. Il y a des régions où, par exemple, il y a pas de tension d'emploi. Comme par exemple les Hauts-de-France où il y a beaucoup de chômage, il y a des régions comme la Bretagne, Pays de Loire où il y a beaucoup moins de chômage. Réduire les indemnités, la durée d'indemnité dans les pays où il y a beaucoup de, dans les régions où il y a beaucoup de chômage me pose un problème. Et les seniors, vous en avez parlé. Excusez-moi, mais aujourd'hui quelqu'un qui est au chômage à 55 ans, tu penses que c'est si simple que ça d'aller retrouver du travail? Eh bien, je peux te dire que c'est très compliqué. Je peux te dire que c'est très compliqué. Et donc, si aujourd'hui, quand t'as plus de 50 ans, t'as heureusement 3 ans, tu avais 3 ans, parce que maintenant ça va se réduire, tu avais 3 ans d'indemnité au lieu de 2, parce que tu avais plus de 55 ans, eh bien, ça ne suffit pas, quelquefois, pour retrouver du travail. Je te le dis.
Alors, je voudrais qu'on entende le témoignage de Gaël. Gaël qui nous appelle de Saint-Cyprien et qui est justement demandeur d'emploi depuis un an. Bonjour, Gaël.
Bonjour.
Bonjour.
Gaël, on discute
de vous avoir.
Oui, bah merci en tout cas, vraiment. Gaël, d'être avec nous. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Alors, expliquez-nous quelle est votre situation, vous, Gaël.
Alors, ma situation, elle est simple. Donc, aujourd'hui, je suis donc à Pôle emploi suite à un problème de santé, en fait, un problème au niveau des mains. Enfin bon, et pour agir au sujet, je suis un peu d'accord avec Thierry, c'est-à-dire que les gens qui sont dans les bureaux ne se rendent pas vraiment compte de la réalité de la vie. Pour mon exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc je me suis retrouvé au chômage. J'ai donc envoyé mon CV à la conseillère Pôle emploi. La conseillère Pôle emploi m'a dit « Mais attendez, vous avez fait plein de métiers, vous avez plein d'expériences, vous avez fait plein de choses, du management, des choses comme ça. Donc, nous, votre profil nous intéresse. Donc, on va vous embaucher. » Donc, je passe le premier entretien d'embauche avec ma conseillère, le deuxième avec la directrice de Pôle emploi, le troisième avec le directeur régional plus un autre directeur, enfin bon, les hautes têtes. Donc, tout se passe bien. Monsieur Fauvet, on est ravis. On va vous avoir. C'est super. On vous accueille, machin, nanana. Sauf que la veille de mon embauche, on me demande un justificatif de mon niveau Bac+2. Donc, moi, j'ai fait un BTS en contrat de qualif. Donc, je leur amène des justifications de mon contrat de qualif. Et arrivé là, on me dit simplement, non, en fait. Non, c'est pas bon. Vous n'avez pas les justificatifs nécessaires. Donc, on vous embauche pas. Alors que pire, c'est que pendant l'entretien, en plus d'embauche, on m'a bien expliqué. Vous savez, maintenant, Pôle emploi agit différemment. On privilégie les compétences et les capacités plutôt que les diplômes. Sauf que, résultat du compte, parce que à leurs yeux, j'ai pas justifié de mon BTS, j'ai été recalé, quoi.
Ce que vous voulez dire, Gaël, c'est qu'en fait, c'est pas si facile que ça de retrouver un boulot, quoi. Voilà.
En fait, pour moi, le gros problème, c'est pas trop de réduire ou toutes ces choses-là. C'est surtout que Pôle emploi fasse déjà son travail. Je suis pas le seul à Pôle emploi. J'ai plein de gens autour de moi qui sont en Pôle emploi. Alors effectivement, je connais des gens qui abusent du système. Je suis le premier à dénigrer ce genre d'agissement parce que ça coûte effectivement de l'argent. Ça, c'est pas une façon de faire. Mais excusez-moi, on va couper. Oui. Mais je trouve que si eux faisaient bien leur travail, je veux dire sur les propositions d'emploi, sur les choses comme ça, il y a plein de choses qui sont incohérentes. Tous les demandeurs d'emploi aujourd'hui peuvent le dire. Ça. J'en ai croisé plusieurs. Je veux dire, quand on nous propose un emploi où il faut parler anglais couramment, alors qu'ils savent très bien qu'on n'a que des notions d'anglais, eh ben ça peut pas matcher. Ouais. Moi, là, on m'a proposé dernièrement, donc je suis en Dordogne, on m'a proposé un poste au Havre.
Ah, c'est pas pratique.
J'ai 44 ans, j'ai 3 enfants, j'ai une vie de famille. C'est pas forcément pratique. Après Pôle Emploi, maintenant tous ceux qui sont chez Pôle Emploi, la plupart, ils font ce qu'ils appellent le Evo Pro Evolution, je sais pas quoi, c'est un genre de formation, de stage. Ouais. C'est très bien pour les gens qui ont 20, 25 ans, qui savent pas trop où aller. On est effectivement dans un
mais pas pour les plus maintenant. De 40 qui ont déjà bossé.
Voilà, maintenant moi je sais où je veux aller, j'ai une expérience, j'ai fait du bâtiment, de l'informatique, j'ai fait de la vente, j'ai fait vraiment du management, j'ai fait plein de choses. Et je trouve que pour les gens comme nous, bah en fait, moi, ça fait un an que je suis au chômage. J'ai passé 6 mois à faire cette formation qui m'a servi à rien. Moi, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, je sais ce qui me plaît. Donc, ils gagnent du temps en faisant ça. On nous donne bon espoir. Vous inquiétez pas, on va vous aider. Et puis, en fait, il y a rien du tout.
C'est
ça. Au final, on m'a jamais proposé un poste de management. On m'a jamais proposé un poste dans ma voie, quoi.
Et en tout cas, ce que vous dites, Gaëlle, c'est que voilà, vous êtes pas là à glander sur votre canapé, quoi. Vous le recherchez activement, mais pour l'instant, vous ne trouvez pas. En tout cas, bon courage, Gaëlle. On vous souhaite bonne chance pour la recherche de votre emploi, en tout cas. Et merci d'avoir appelé. On est avec Fabrice, qui nous appelle de Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne. Bonjour, Fabrice.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise, Fabrice. Alors, c'est un peu l'inverse. Vous ne trouvez personne, en fait.
Voilà. C'est-à-dire que depuis des années, c'est toujours la même rengaine. On a comme une activité qui est assez croissante actuellement et encore plus maintenant avec le coût des énergies. Et nous avons postulé à maintes reprises, aussi bien via Indeed, LinkedIn, Pôle emploi, tout ça. Et on est toujours au même point à l'heure d'aujourd'hui.
Et vous pensez qu'en fait la réforme de l'assurance chômage, le fait que les chômeurs n'aient plus finalement que 18 mois pour trouver un emploi, ça peut vous permettre vous de retrouver ?
Alors oui, et encore je dis que 18 mois c'est un peu énorme encore une fois.
Ah, carrément.
Pourquoi ? Oui, sincèrement, on a reçu des candidats qui venaient de différents sites comme LinkedIn ou autres, qui nous disaient « écoutez, soit vous nous donnez temps, mais moi, au chômage, ça me permet d'avoir tous ces avantages-là, de faire du travail à côté, bon, vous avez compris. » Voilà, donc nous, on est un peu désarmés devant tout ça. Quand on recontactait pour Pôle emploi, faire une situation sur... les entretiens, la seule chose qu'ils nous répondaient, on peut rien faire. Et moi, je pousse un coup de gueule parce que là, actuellement, on n'est pas les seuls dans cette situation-là. Il y a énormément de professionnels qui se voient.
Vous êtes chef d'entreprise dans tout ce qui est cheminée et poêle à bois. Hein.
Voilà, oui, tout à fait. Mais bon, en fin de compte, quand on parle entre pros, c'est dans tous les secteurs, quoi, qu'il y a une pénurie de personnel.
Mais vous cherchez quoi, Fabrice, exactement? Vous cherchez qui?
Même des débutants, on cherche vraiment des gens, aussi bien pour le magasin que pour nos équipes techniques, tout ça. Pour vous dire, nous, même un débutant d'une vingtaine d'années, il démarre quand même à 1 800 € net. Donc,
1 800 net?
Oui.
J'ai peut-être quelqu'un pour vous, Fabrice.
Oui.
Je vous explique. Non, mais attendez. Là, on a en ligne, vous êtes en Seine-et-Marne, à Crécy-la-Chapelle. On a en ligne Sébastien, qui a 42 ans, qui vient de Saint-Fargeau-Pontierry. En Seine-et-Marne, aussi, c'est pas très loin. Et Sébastien, il est demandeur d'emploi, justement. Bonjour, Sébastien.
Bonjour. Alors,
regardez comme la vie est bien faite.
Excusez-moi si je suis un peu timide. J'osais pas prendre la communication, mais bon, je me lance.
Alors, Sébastien, vous cherchez un emploi aussi en Seine-et-Marne, donc
Seine-et-Marne, non, mais je ne suis pas fixé aussi sur la Seine-et-Marne, hein, même sud de la France, voilà, je suis mobile. Après, derrière, le problème, c'est l'accompagnement du Pôle emploi derrière, parce que justement, là, hier, j'ai eu un entretien pour un poste sur Limoges, et mais après, on me dit, mais comment vous allez faire pour vous loger? Et c'est une vraie question.
C'est pour ça que je vous ai mis en relation, vous voyez, avec Fabrice, qui justement cherche quelqu'un en Seine-et-Marne. Puisque là, vous êtes en Seine-et-Marne, à Saint-Fargeau-Pontierry, que je connais bien parce que j'allais là-bas au centre aéré quand j'étais petite. Ah, oui, parce que j'étais au petit Rémonceau juste à côté, vous voyez. Et donc, en fait, Fabrice, il cherche quelqu'un, donc ça pourrait être vous, Sébastien?
Non, parce que je suis pas du tout dans les cheminées.
Et moi, vous êtes dans quel secteur?
Voilà, moi, je m'occupe plus de tout ce qui est bâtiment ERP.
Bureaux. Bah, s'ils construisent des bureaux.
Voilà, moi je suis responsable technique là-dessus. D'accord. J'ai travaillé très très dur pour en arriver là où j'en suis, mais aujourd'hui, je n'arrive plus à postuler pour des postes similaires parce qu'on me demande de plus en plus de choses. Maintenant, on me demande de parler couramment anglais et on me demande de. Et tout ça, à l'époque,
il y avait vous n'en aviez pas besoin. Ouais, mais c'est très intéressant ce que vous dites, effectivement, Sébastien. C'est un peu ce que disait l'auditeur précédent. C'est-à-dire qu'on lui demande des diplômes qu'il n'a pas forcément, mais il a une expérience qui font que, normalement, quand vous avez plus de 40 ans, on ne vous demande pas vos diplômes. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait avant, votre expérience.
Après, il y a des formations. Pôle emploi offre tonnes de formations payées. Ouais, enfin, je veux dire.
Oui, mais. Voilà. Moi, je pensais trouver.
Si, il y a plein de formations à Pôle emploi. Et c'est
gratuit. Mais d'accord, mais enfin, une formation en anglais. Excuse-moi, moi, je ne parle pas un mot d'anglais. Ça fait 20 ans que ma mère me dit, mais enfin, quand même, tu pourrais faire une formation. Bon, ben, je le fais pas. Voilà. Et en vrai, je pourrais faire. Une heure d'anglais par semaine.
Mais travail, oui, mais donc là, même. Pendant la période de chômage,
t'apprends pas à parler anglais en deux semaines.
En 18 mois, tu peux.
Oui, enfin, ils n'ont pas que ça à faire, les demandeurs d'emploi. Ils sont demandeurs d'emploi, donc par essence, ils cherchent un travail.
Oui, mais si dans un.
Encore une fois, ils ne sont pas là à regarder les séries Netflix toute la journée.
Si dans le domaine où une personne veut travailler, il faut parler l'anglais. Ben, c'est gratuit. En plus, c'est Pôle emploi qui offre. C'est l'État te permet de t'adapter. Au travail que tu veux faire.
Oui, mais c'est tout le temps que tu vas pas trop, tu vas pas prendre pour chercher un emploi, justement.
Enfin, les cours d'anglais, c'est pas 8 heures par jour, hein.
Oui, mais bon. Bon, en tout cas, merci, Sébastien. On vous souhaite bon courage pour trouver un emploi. Et puis, Fabrice, on vous souhaite bon courage, vous, pour trouver, quelqu'un pour travailler, avec vous. Rémi, vous avez plein de messages sur ce sujet, qui passionne, manifestement.
Oui, message de Nicolas sur Direct Studio qui réagit à ce qu'on était en train de se dire, qui nous dit, je comprends ce chef d'entreprise, mais si un cadre est au chômage et se retrouve à devoir prendre n'importe quoi parce qu'il arrive en fin de mois d'indemnisation. Donc, un emploi, par exemple, chez lui, il continuera à chercher ailleurs et s'en ira à la première occasion. Et puis, il y a un autre message de Jean qui nous dit, lui comprend, bonjour à toutes, ce nouveau dispositif, je suis chef d'entreprise régulièrement. Je vous assure que j'ai des demandeurs d'emploi qui refusent un CDI car ils veulent juste, comme ils me le disent, travailler quelques mois pour pouvoir ensuite retoucher leur chômage après la fin du CDD. Et ça, c'est une réalité.
On vous a posé la question, donc, sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi. Cette réforme de l'assurance chômage, est-ce qu'elle est scandaleuse ou nécessaire?
C'est nécessaire pour 47% des personnes qui ont voté sur nos réseaux sociaux. Donc, vous l'aurez compris. Non, mais vous l'aurez compris, mais c'est quand même assez serré. Non, mais c'est quand même assez serré parce que c'est quand même.
C'est vrai.
Une réforme, c'est pour ça que j'ai commencé par nécessaire, parce que c'est quand même une réforme du code du travail, en tout cas des indemnisations chômage. C'est souvent très contesté, c'est souvent très polémique, et là on voit que c'est quand même serré. Hein.
Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC, on parlera de l'uniforme à l'école, de la 38e campagne des Restos du Cœur, et de la députée écologiste Sandrine Rousseau qui fait peur à Éric Ciotti. À tout de suite.
RMC, midi 14h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h29 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment du meilleur d'RMC, le zapping.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on va commenter tous les meilleurs moments de ces dernières 24 heures sur RMC avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Benjamin Muller et Fred Hermel. On va commencer avec les GG ce matin. Faut-il imposer un uniforme à l'école? Le débat revient aujourd'hui avec la proposition de loi que souhaitent déposer certains députés Renaissance avec comme arguments la défense de la laïcité, favoriser le pouvoir d'achat des parents et enfin booster l'industrie textile française. Témoignage tout à l'heure dans les GG d'Aurélie. Elle a connu l'uniforme à l'école en Martinique et elle n'en garde pas un très bon souvenir.
Les uniformes, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire, pour avoir une unité, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que on vous vend un uniforme à l'école qui est très cher. Je me souviens qu'une jupe, c'était genre, par exemple, 300 francs, juste la jupe. Et par contre, vous pouviez les acheter dans des magasins moins chers, mais elles avaient moins de qualité. Donc, on voyait tout de suite que vous aviez moins de sous. Et puis, vous pouviez aussi voir les différences de niveau social avec simplement des bijoux, ou les chaussures, ou les niveaux sociaux n'étaient pas vraiment différents qu'il y a finalement.
Pour ou contre l'uniforme à l'école, Benjamin, vous qui avez plein d'enfants?
Plein d'enfants, pas d'uniforme, mais des enfants qui ont des copains qui, eux, ont des uniformes dans les collèges où ils ont pu entrer, privés, c'est essentiellement en France.
Oui, mais ça, oui.
Plutôt pour. J'ai vu quand j'étais en Guadeloupe des gamins qui sortaient d'une école où ils étaient tous habillés pareil. Alors effectivement, on peut toujours avoir une bague ou une belle montre qui montre qu'on est un peu plus riche que les autres. Mais globalement et surtout à l'âge de 7-8 ans, bon, je pense que les enfants s'en foutent un peu. Je trouve que socialement, moi, c'est même pas une histoire de laïcité ou une histoire de quoi que ce soit. C'est surtout pour une histoire sociale. C'est-à-dire que là, il y a plus de question de marque, etc. Je l'ai vu aussi en Angleterre où j'étais dans un bus et là, il y a plein de gamins qui sont en train de bus et
tous...
Et en plus, voilà, il y a un côté Harry Potter. Ils avaient tous la classe. Les filles, elles étaient toutes. Enfin bon, bref. En plus, ils se draguaient tous les uns les autres. J'avais l'impression d'assister à un grand truc assez romantique. J'ai trouvé ça pas mal. Juste, si on fait ça, il faut des uniformes made in France. Qu'on nous fasse pas le coup de la mascotte des Jeux Olympiques, la made in China.
Ils vont les fabriquer en Chine, ça c'est sûr que ça n'ira pas.
Ouais, mais regardez sur la mascotte, ils ont réussi à nous le faire. Donc, mais plutôt pour.
Frère, mais bon, j'ai même pas. Enfin, je sais déjà que vous allez me dire oui, Fred. Hein, tout
à fait. Oui. Parce que j'ai entendu les arguments donnés par les promoteurs de la loi. Il n'y a que des avantages. Voilà. Et puis cette question de la laïcité, parce que
t'as quand même un inconvénient, c'est que à l'adolescence, par exemple, c'est le moment où t'as envie de montrer parfois ta différence.
Bah, tu fais ça en dehors de l'école.
Ouais, mais c'est pas pareil. Enfin, tu vois.
L'école doit être considérée comme un sanctuaire. Un sanctuaire où on apprend des choses, où on acquiert un certain savoir. Et dans ce sanctuaire, on doit avoir effectivement une certaine unicité. Et je trouve que pour s'exprimer en tant qu'adolescent, on peut le faire ailleurs. Et pour reprendre l'exemple anglais dont tu parlais, Benjamin, il y a une fierté en plus d'appartenance à son école.
Ouais, exactement.
Chacun a son écusson. Enfin, il y a un truc quand même qui se passe.
C'est comme le maillot de ton équipe, en fait.
Exactement. Voilà, et je pense que ça serait une bonne chose. Encore une fois, pour plusieurs raisons. La laïcité d'un côté, le gommage quand même un petit peu de certaines
différences sociales,
même si effectivement il y aura toujours la montre qui fera la différence.
Ou les baskets, mais
quand même, c'est quand même très important. Et ça se fait très bien dans d'autres pays. Et contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs, il n'y a jamais eu d'uniforme en France. Il n'y a pas de rétablissement d'un truc.
Non, on mettait des blouses. Moi, quand j'étais petit, on avait une blouse.
C'était pour la pauvreté, c'est tout.
C'était des blouses plutôt bariolées. Dans les années 70.
Et il y a en plus d'écoles qui proposent en tout cas des sweats et des t-shirts aussi aux élèves pour qu'ils puissent
un peu
porter.
Corpo, quoi. Voilà,
c'est pas un uniforme,
à l'américaine,
pas le sweat pour aller au sport, par exemple. Un peu à l'américaine. Apolline Matin, ce matin, la 38e campagne des Restos du Cœur s'ouvre aujourd'hui et le nombre de demandeurs ne cesse d'augmenter, plus 12% par rapport à l'année dernière. L'association a donc plus que besoin de donateurs et de bénévoles. Patrice Douret, le président des Restos, était l'invité d'Apolline ce matin.
C'est la première fois qu'on a une situation aussi incertaine. La seule certitude, c'est qu'effectivement, on a besoin des Restos du Cœur aujourd'hui. Ce que l'on constate, c'est une augmentation assez importante de 12% du nombre de personnes accueillies sur la même période cette année que par rapport à l'année dernière. Beaucoup de familles, 15% de familles, et un chiffre qui nous inquiète beaucoup plus, c'est aussi la présence de bébés de 0 à 3 ans, avec 110 000 bébés, dont le nombre a augmenté aussi ces derniers mois.
Patrice Douret, comment est-ce qu'on peut aider ?
Aujourd'hui, on a une équation à trois inconnues. On voit bien que, premièrement, c'est la précarité. Rien n'indique que les coûts vont diminuer. Deuxièmement, ce sont nos ressources. Les ressources financières aujourd'hui des associations peuvent être affectées. Nous achetons un tiers de ce que nous distribuons, je rappelle, gratuitement au Resto du Cœur, ce qui veut dire que nous sommes aussi impactés par la hausse des coûts, que ce soit sur l'énergie ou l'alimentation. Et puis, bien évidemment, les ressources bénévoles. Nous, sans les 70 000 bénévoles qui sont aujourd'hui sur le terrain toute l'année, on ne ferait rien. Sans les donateurs, on ne ferait rien. Donc ça veut dire qu'effectivement, pour pouvoir continuer à les aider, et nous tenons à le faire et nous prenons nos responsabilités effectivement en le faisant et en le faisant plus fortement encore, il va falloir aider les Restos du Cœur, notamment financièrement bien évidemment, mais également en permettant de favoriser le bénévolat.
Et c'est vrai que c'est une catastrophe, Fred, parce qu'en plus, l'inflation touche les ménages, donc les ménages donnent moins, évidemment, il y a ça aussi. Et puis souvent, l'aide alimentaire, tu sais, tu fais ton caddie et tu redistribues, mais là, si t'as pas de quoi te nourrir toi-même, tu vas pas aller faire un don, quoi.
Non, et en plus, je lisais un article qui expliquait que les propres bénévoles sont aussi des citoyens, pas forcément des gens très fortunés.
Modestes,
c'est ça.
Modestes. Et en fait, le truc, c'est que ils sont aussi fragilisés par l'inflation. C'est ce qu'on dit tout le temps, mais quand Coluche, le merveilleux Coluche, qui nous manque tant, avait pensé les Restos du Cœur, il n'y voyait qu'un petit effort pendant quelques années.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est le pire, c'est que les Restos du Cœur sont étatisés, institutionnalisés.
Ils se sont substitués à l'État, en fait.
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie du panorama de la République française. Et c'est pas normal. Ça n'aurait dû être qu'une mesure d'urgence d'un.
Et c'est pire en pire. Mais non seulement ça, mais c'est
dans l'interview de ce matin, ce qui était très touchant, c'est qu'il expliquait qu'il y a aujourd'hui des gens qui arrivent au Resto du Cœur qui hésitent entre acheter un litre d'huile et un litre d'essence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils s'attendent à une vague qui va arriver chez eux, là, au moment de l'hiver, de gens qui ne pourront plus mettre un litre d'essence pour aller travailler, tout simplement. Pour aller travailler. Et donc, ils feront le choix entre se nourrir et aller travailler. Il a dit aussi qu'il était contre la réforme de chômage dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il pense que ça va lui ramener une vague de gens en fin de droit. Je te dis pour ça, je pense que ça va être un effet mécanique.
Et ce qui est terrible aussi dans ce qu'il dit, c'est les bébés, les familles, surtout d'ailleurs des familles monoparentales, quoi, en clair des femmes avec des enfants qui arrivent, poussent la porte des Restos du Cœur pour du lait, pour des couches, pour des lingettes. Quand on en est à se poser la question de est-ce que je me nourris moi, je nourris mon enfant et je nettoie mon enfant, vous imaginez, enfin, on peut pas imaginer tout cela. Quand j'étais petit, ma grand-mère était bénévole au Resto du Cœur du côté de Metz, et de temps en temps, j'étais allé la voir pendant qu'elle faisait la distribution. Et dans mon souvenir, il y avait aucun gamin qui faisait. Mmh. C'était des hommes essentiellement d'un certain âge. On comprenait que c'était. Enfin, dans mon souvenir,
beaucoup de SDF.
Accidenté de la vie, comme ma grand-mère disait.
Aujourd'hui, c'est plutôt comme ça.
Et là, maintenant, c'est pas ça. Maintenant, c'est des familles. Alors, je dis pas que c'est pas terrible par rapport à des étudiants. Effectivement, des étudiants. Et donc, des familles avec des jeunes enfants. C'est quand on dit que ça se substitue à l'État, c'est quand même un problème terrible.
Dans un instant, on parlera de solutions anti-gaspillage avec Paul Lassane dans la minute conso, des solutions justement pour vous faire faire des économies. À tout de suite sur RMC dans Estelle Midi.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h42 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure de la minute conso avec Paul Lassane.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Et vous nous parlez d'un chiffre aujourd'hui, Paul, 10 millions.
Oui, et ce chiffre, il correspond au nombre de tonnes de nourriture que les Français jettent chaque année. 10 millions de tonnes, c'est énorme. Ça se vérifie par ailleurs dans chaque foyer. À votre avis, combien de kilos de nourriture jette un Français par an ?
67 kilos.
Non, un peu moins.
Bah, 60, non, mais moi je l'ai, donc je peux pas vous dire.
Une dizaine.
Non, plus.
37.
Moins.
Bon, on va quand même enchaîner.
Vas-y,
29 kilos pour être exact. Et attention, ce ne sont pas que les restes de repas où vous avez trop cuisiné, par exemple. Non, puisque sur ces 29 kilos, 7 sont jetés alors qu'ils sont encore emballés. C'est une aberration écologique. Incroyable. Il faut savoir que le gaspillage alimentaire, c'est environ 10% des émissions de CO2. Mais c'est aussi un problème économique, surtout en cette période de forte inflation. Ces 29 kilos jetés à la poubelle, ça représente un budget d'environ 480 euros sur l'année. Quand on sait que le panier moyen d'un Français pour ses courses de la semaine est à peu près le panier moyen d'un Français par mois, c'est 380 euros. C'est une perte non négligeable.
Mais est-ce qu'il y a des solutions envisagées pour lutter contre ce gaspillage et faire des économies, donc, Paul ?
Oui, on peut déjà en mettre une en avant. C'est l'État qui l'a annoncé au début du mois. Une nouvelle législation sur les étiquettes, vous savez, sur les emballages que vous avez sur vos produits alimentaires. Dans quelques semaines, quand vous irez faire vos courses, vous trouverez sur certains produits deux phrases. Pour dégustation optimale, où ce produit peut être consommé après cette date.
Ça, c'est bien.
Mais ça va surtout concerner les produits secs, les conserves, les pâtes, la farine.
Oui, ce qui reste comestible, même quand c'est plus bon, quand c'est périmé.
Le but, c'est.
20 ans plus tard, tu peux encore
manger du riz. Ça n'a jamais tué personne.
Ou des sardines à l'huile.
Ah, ça je savais pas.
Il faut les ressouder tous les deux ans pour qu'elles elles se bonifient.
Non, c'est vrai. Il y a des brasseries où on vous offre des sardines à l'huile de 25 ans.
Oui, enfin, bon, je voudrais bien voir la date sur la boîte.
C'est
quand même.
Très chic.
Bon, bref, continuez, Paul.
Et l'autre solution, ça vient de nous, du consommateur. On a notre part à prendre aujourd'hui. On estime que 20% du gaspillage alimentaire est lié à une mauvaise compréhension des dates de consommation,
voilà,
justement. Du coup, le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'être un peu moins coquet. Alors, pour les produits secs, on en parlait. Certains peuvent être consommés des années après. Le poivre, par exemple, c'est jusqu'à 40 ans. Donc, si vous avez du poivre qui date de votre grand-mère.
Ça ne me
viendrait
même pas à l'esprit de regarder la date de limite de consommation du poivre.
Oui.
Qui fait ça?
32-16, si vous lisez. quant aux produits frais, c'est pareil. Aujourd'hui, 41% des Français jettent des produits laitiers, par exemple, au moins une fois par mois, alors que, on le sait, hein, même si la date de péremption des yaourts est dépassée, vous pouvez avoir jusqu'à un mois pour le consommer. C'est la même chose pour les légumes. 8 Français sur 10 les jettent alors qu'ils sont seulement partiellement moisis. Eh bien, arrêtez. Si une partie est pourrie, vous la coupez, mangez le reste. A priori, vous ne risquez pas grand-chose, voire rien du tout.
Il existe aussi des plateformes qui luttent activement contre le gaspillage.
Oui, et la plus active, on en parle souvent, notamment ici, c'est l'application Too Good To Go. Elle met en lien les commerçants, les utilisateurs aux alentours, afin que ceux qui viennent récupérer des invendus alimentaires à petit prix soient informés. Typiquement, votre boulanger, il lui reste des baguettes en fin de journée. Via l'appli, il prévient et vous pouvez aller chercher des baguettes qu'il vous vend moins cher. Et ça permet d'économiser. Et ces applis, elles donnent aussi des petits conseils. pour faire baisser le ticket de caisse.
Vas-y.
Quand vous allez faire des courses, faites une liste pour vos repas de la semaine. Oh, ouais. Comme ça, vous...
C'est trop compliqué, mais tu sais jamais ce que tu vas faire.
Oui, mais il faut anticiper.
Et quand t'as des ados, tu sais jamais lequel va manger le soir ou pas.
Mais vous les forcez.
C'est
un ado, j'attends de voir.
Oui, ben je.
C'est très compliqué ça. Ça va pas. Bon, alors ensuite.
Dans le même genre, du coup, si vous faites une liste, vous achetez juste les quantités qu'il vous faut. S'il vous faut un paquet de pâtes, vous en achetez pas deux.
Non, mais des fois il y a des promos.
Ah oui. Justement, il faut pas se laisser.
Si j'ai trois paquets, un gratuit.
Mais il faut pas se laisser éblouir par les promos.
Non, mais je sais.
Souvent, c'est pas forcément des bonnes promos non plus. Même conseil, quand vous achetez quelque chose, regardez bien le prix au kilo. C'est
exactement.
Souvent bien plus intéressant que le prix qui est indiqué pour ce que vous allez acheter. Évidemment, la cuisine à la maison, arrêtez les plats cuisinés, achetez deux légumes, une petite viande. Ça vous reviendra pas forcément moins cher, mais c'est meilleur pour la santé.
Ah oui, il n'y a pas photo. Ouais.
En gros, un peu de volonté, du travail, et vous allez et sauver la planète et faire des économies.
Et alors apparemment, le petit truc qui fait gagner beaucoup d'argent, c'est de ne jamais faire ses courses avec ses enfants. Jamais.
Ah oui.
Parce que les enfants, ils vous poussent toujours à aller acheter un paquet de bonbons, un truc.
Ni quand on a faim.
Ni quand on a faim, exactement. Ne jamais aller faire ses courses à 13h.
Ne pas faire de courses.
En vrai, voilà, tu vas pas faire des courses avec tes enfants, comme ça t'es pas tenté, etc.
C'est vrai qu'on craque.
Et tu vas pas faire de courses quand t'as faim, ce qui est assez logique.
Ça, c'est pour se déculpabiliser.
Avec les enfants, il y a toujours un moment où on craque. On commence par dire non au rayon des jus de fruits, ensuite non au rayon des gâteaux, non au rayon des pâtes, et puis on dit ah, des yaourts,
Oui, aux légumes.
Généralement, ils entendent un peu moins, là. Ouais. Aussi, ou alors ils vont demander des framboises qui coûtent un bras parce qu'elles viennent de l'autre bout du monde, etc. Et c'est là où on craque. Et c'est pas bien. On a pollué et on a acheté très cher.
Allez, dans un instant, si vous aimez le foot, restez sur RMC. L'intégrale Coupe du Monde avec notamment Danemark-Tunisie. Le match du groupe D, ce seront nos futurs adversaires. Et ce sera avec Pierre Dorion. Salut Pierre.
Salut Estelle, c'est une énorme journée avec d'abord la sensation qu'on vient de vivre.
Incroyable.
À la victoire de l'Arabie Saoudite. On va y revenir. Et puis donc ce France-Australie ce soir à 20h pour se mettre en appétit. C'est parfait dans cet après-midi qui débute. Eh bien, on a les adversaires de la France dans le groupe D. Danemark-Tunisie qu'on va vivre tout de suite avec la Dream Team et avec vous bien sûr au 32-16, alors que Estelle, on te retrouve sur RMC Story bien entendu.
Oui, RMC Story, on parlera de sport en fait. Les écrans sont-ils un danger pour nos vies sexuelles? Ça peut être du sport, sauf si justement on ne pratique plus à cause des écrans.
Si on regarde le sport sur les écrans au lieu de faire du sport.
Alors là, il y a un choix à faire. Faire l'amour ou regarder
les écrans. Mon choix est fait.
Oui, mais vous n'avez pas dit lequel.
Oui, mais je suis pas là après.
Eh bien, tant pis. Donc, RMC Story, les écrans sont-ils un danger pour nos vies sexuelles? Et RMC, le foot avec Pierre Dorion, à tout de suite.
RMC, Estelle Midi.